Bonsoir, entrons ensemble dans un temps du débat consacré à nos démocraties, à la démocratie, à l'épreuve de la Covid-19. À l'ordre du jour ce soir, notre démocratie souffre-t-elle du coronavirus? Depuis hier, nous sommes tous suspendus aux décisions qu'annoncera demain le président de la République à la télévision. Une habitude, tout compte fait, depuis 7 mois pour des citoyens accoutumés à attendre déclarations présidentielles, ministérielles ou médicales concernant leur vie quotidienne, leur liberté de mouvement ou de se divertir. Ces à-coups, coups de frein et volonté d'accélération parfois se sont succédés à grande vitesse depuis les déconfinements. Or, la démocratie, on le s'épanouit dans un temps long qui exige que la confiance puisse un jour ou l'autre s'installer dans la durée. Pourrait-il en être autrement? Y aurait-il d'autres voies moins verticales pour sortir de cette crise? C'est la question que nous allons poser à nos trois invités, à Emmanuel Hirsch, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur d'éthique médicale à l'Université Paris-Saclay et vous avez dirigé un gros livre, le livre Pandémie 2020, éthique, société et politique. Ça vient tout juste de paraître au CERF. Avec nous également Michael Fossel, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes philosophe, professeur à l'École Polytechnique, auteur de Récidive aux Presses Universitaires de France en 2019 et vous avez co-dirigé le numéro d'octobre 2020 de la revue Esprit sous le titre « Le mythe de l'impuissance démocratique ». Et au téléphone avec nous, Monique Chemillier-Gendreau, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes juriste, professeur émérite de droit public et de sciences politiques à l'Université Paris-Diderot et vous avez publié en 2020 chez Textuel « Pour un conseil mondial de la résistance ».
C'est des personnes qui s'agglutinent les unes avec les autres, qui ne portent pas de masque, parce qu'effectivement, quand on boit un coup, ou quand on mange, puisque vous parlez de repas, oui, c'est un peu difficile de porter un masque, dans des lieux clos. Ça, il faut l'éviter par tout moyen. Donc effectivement, vous avez raison, je demande de respecter les gestes barrières. Il n'y a vraiment rien de nouveau.
Mais alors, Jean Castex,
dans l'espace public comme dans l'espace privé. Ah, on me dit c'est une dictature sanitaire. Enfin, restons raisonnables.
Vous l'avez reconnu, il s'agit de notre Premier ministre, le Premier ministre Jean Castex, c'était sur France Info lundi dernier. Je demande, et on parle de dictature sanitaire, de démocratie sanitaire. Emmanuel Hirsch, vous avez publié une tribune dans le journal du dimanche, de dimanche dernier, où vous expliquiez effectivement qu'il y avait peut-être un problème vis-à-vis de la démocratie telle qu'elle s'était exercée pendant cette longue crise du coronavirus, qui n'est d'ailleurs pas terminée.
Je suis pas le seul à le penser. Et quand j'entends le Premier ministre avec des propos paternalistes, qui ne sont pas du tout à la hauteur des enjeux et du respect qu'on doit à des citoyens dans une démocratie, s'il faut mobiliser les gens, les responsabiliser, c'est pas en tenant des propos de cette nature.
Qu'est-ce qu'il faudrait dire?
Déjà, je pense qu'il faudrait que la société puisse se mobiliser, c'est-à-dire qu'il y ait la concertation, que les gens aient le sentiment d'être reconnus comme partie prenante et reconnus aussi dans leur diversité, parce que chacun est exposé d'une manière très très particulière au risque de contamination, au risque de transmettre. C'est un phénomène politique, un phénomène social dont il s'agit, c'est pas uniquement des discours ou des admonestations publiques qui sont importantes. Oui, la démocratie est en crise, à mon avis, parce que on ne gère pas la pandémie d'une manière démocratique, et on sait qu'une pandémie, avec ses impacts sur la vie publique, a souvent pour effet de déstabiliser tout ce qui est structure d'une société. Enfin, c'est l'histoire qui nous l'apprend. Puis on voit aussi que d'autres modèles qui sont souvent cités pour la gestion de la pandémie, des systèmes notamment autocratiques ou non démocratiques, sont parfois enviés par certains intellectuels qui voient une manière de gestion qui évite de se poser la question de la capacité de discernement. Et on est dans un contexte d'incertitude, on est dans un contexte de conflit à la fois de valeur et d'autorité, d'expertise. C'est pour ça que je dirais que plus que jamais, on devrait mettre de la démocratie dans le débat. Je termine sur un point qui m'a beaucoup frappé. En fin de compte, la démocratie a été très présente dans les premiers mois, notamment de confinement, quand on a vu émerger tant d'initiatives, tant d'inventivité du terrain, qui nous donnait une image de la société très différente du temps un peu de blues des gilets jaunes. On a vu une société invisible qui s'est mobilisée. Pour moi, c'était un acte fort de la démocratie. Qu'est-ce qu'en ont fait les décideurs publics totalement indifférents à cette richesse? Et qu'est-ce qu'on fait, y compris le Premier ministre qui, à l'époque, avait la charge du déconfinement? Qu'est-ce qu'on a fait de l'après-confinement pour mobiliser les gens et se préparer à ce qu'on va vivre maintenant et qui sera d'autant plus douloureux, terrifiant d'un point de vue démocratique, qu'on a le sentiment qu'on ne maîtrise rien.
Oui, dans le numéro de La Revue Esprit que vous avez coordonné, Michael Fossel, ce numéro s'intitule « Le mythe de l'impuissance démocratique ». Vous tentez justement de montrer comment une véritable démocratie en temps de Covid devrait fonctionner. Ça ne correspond pas à ce qu'on a connu ici, ou ailleurs d'ailleurs, puisque vous connaissez bien par exemple l'Allemagne.
Oui, pas exactement, parce que ce qu'on a essayé de faire, c'était de retracer aussi un peu le temps long de la question de la démocratie en temps d'urgence, ou dans des périodes qui sont particulièrement exposées à des événements de type dramatique. Et de ce point de vue-là, l'idée de l'impuissance démocratique est une vieille idée, en vérité. On se souvient peut-être de la manière dont déjà Démosthène disait « Qu'est-ce que c'est que ces Athéniens qui délibèrent, qui votent des lois, pendant que Philippe II, le tyran de Macédoine, lui, nous envahit ?» Donc il y a toujours une espèce d'a priori négatif à l'égard de la démocratie, précisément parce qu'elle est supposée être lente, inefficace, conflictuelle, prenant trop de temps. Ce qui est une des spécificités, évidemment, d'une pandémie, c'est que se surajoute à cette espèce d'a priori négatif à l'encontre de la démocratie, le fait qu'il y a un discours médical, donc scientifique, qui est censé poser ses propres normes, son propre rythme aussi. Et de ce point de vue-là, évidemment, on a le conflit entre le savoir et l'opinion. Et l'opinion, évidemment, c'est celle des gens qui se voient astreints à un certain nombre de mesures, mais qui, évidemment, sont face à un discours qui prétend être scientifique. Alors, l'un des effets que l'on constate aujourd'hui, c'est que la démocratie est entrée aussi dans le lieu médical. Alors, elle y est entrée parfois d'une manière conflictuelle, extrêmement violente, pas souvent très, très, comment, délibérative.
Ça
n'est pas d'aujourd'hui.
Ça date des années du sida en particulier.
Évidemment, mais c'est d'aujourd'hui, je dirais, que cela rythme la société tout entière. Donc, de ce point de vue-là, il me semble qu'on aurait aussi intérêt à voir qu'on ne peut pas simplement opposer un modèle du savoir à un modèle de l'opinion. Et par exemple, je me souviens qu'au début, le gouvernement disait, derrière toutes nos décisions, il y a une blouse blanche. Mais la vérité, c'est que les blouses blanches ne sont pas nécessairement toutes d'accord entre elles, en particulier face à une maladie nouvelle, et que donc la délibération, la discussion, le conflit a lieu dans le milieu sanitaire. Pourquoi n'aurait-il pas lieu dans la société elle-même ?
Monique Chemillet-Gendreau, vous êtes, je le rappelle, juriste, professeur de droit public et de sciences politiques à Paris-Diderot, professeur émérite. Et vous pensez, vous, que le coronavirus dit quelque chose de notre démocratie ? Qu'est-ce qu'elle dit et qu'est-ce qu'il dit, ce virus ?
Je crois que la pandémie a simplement mis en lumière des tendances profondes et des carences graves de notre démocratie, mais qu'évidemment, on a vu tout d'un coup, elle nous explosait à la figure. La démocratie, ce ne sont pas les quelques recettes qu'on cite habituellement dans les cours de droit constitutionnel, le suffrage universel, la séparation des pouvoirs, le multipartisme. La démocratie, c'est quelque chose de très difficile, c'est une qualité de la vie en société, c'est un horizon. C'est quelque chose qui n'est jamais stable. On ne l'atteint jamais. On tend vers la démocratie. Et pour y tendre, il faut prendre en considération le multiple, la variété de la société, la diversité. Et évidemment, dès qu'il y a du multiple et de la diversité, il y a du dissensus, il y a du désaccord. Et il revient au pouvoir politique de tenter, à travers ce dissensus, de temps en temps, de prendre des décisions, parce qu'il faut en prendre. C'est ça, toute la difficulté de la démocratie. Ce que la crise a mis en valeur terriblement... C'est, je pense souvent à la Boétie à propos de la démocratie, parce que justement à propos du multiple, lui avait sous-titré son essai sur la servitude volontaire, le contre un, c'est-à-dire le contraire du un de l'État, le un de l'État qui dans sa verticalité prétend résumer tout le monde dans une seule personne et un seul modèle social, économique, etc. Mais la Boétie, à un moment de son essai, parle de l'entre-connaissance. Et ce que la pandémie a mis en lumière de manière extraordinaire, c'est le manque d'entre-connaissance. Et d'ailleurs, la pandémie a fait faire un petit bond de ce côté-là. Nous avons tout d'un coup mieux connu et mieux compris les soignants, les caissières des grandes surfaces, les éboueurs, etc. Parce qu'on a vu tout d'un coup de manière saisissante où étaient les fonctions essentielles de la société. Mais malheureusement, ça s'est très vite refermé. À peine la première vague était passée, qu'on a déjà oublié tout ça et on repart comme avant. Et le pouvoir politique n'est pas dans l'entre-connaissance. Il prétend savoir avant d'avoir cherché à connaître les autres. Et je vais vous dire une petite chose personnelle. Il se trouve qu'au printemps 2019, un de mes proches a été hospitalisé aux urgences du Kremlin-Bicêtre. Il a passé la nuit sur un brancard. Dans le hall où il était, il y avait 48 personnes sur des brancards qui ont passé la nuit. Les soignants étaient déjà en grève, mais ils faisaient quand même admirablement leur travail. Et je me disais, en regardant cette situation, que véritablement, ce qui manquait au pouvoir actuel, c'est que nos ministres, nos responsables politiques fassent tous, avant de commencer leur fonction, un stage d'une semaine, deux semaines, trois semaines, dans les lieux de travail difficiles, les urgences médicales, les écoles dans les zones défavorisées, les transports dans les banlieux, les lignes de nuit, etc.
Les fameux stages ouvriers qu'on faisait dans le temps quand on était théoriquement à l'ENA, on faisait des stages ouvriers quelquefois.
Mais est-ce que c'est la démocratie ou est-ce que c'est la gouvernance ?
Emmanuel
Hirsch. Parce que la démocratie, elle me semble plutôt fonctionner. Les gens expriment une envie de solidarité, une envie de mobilisation. Ce qui m'interroge plus, c'est les modalités de la gouvernance. Une gouvernance, j'allais dire abstraite, qui n'est pas du tout consciente du réel. Et c'est ça qui est inquiétant. C'est-à-dire il y a un dissensus entre ce que les gens, dans leur expérimentation au quotidien, peuvent produire, y compris en éthique de la précaution, en capacité d'être soucieux de l'autre.
Et vous trouvez que justement, ça s'est accéléré, cette éthique de la précaution s'est accélérée pendant le confinement et après.
Il y a un discours qu'on plaque sur une réalité que les gens ne veulent pas connaître. Moi, ce que je vois dans mon expertise de terrain, c'est ce qui se passe dans les lieux les plus reculés, finalement, de la République, notamment dans les lieux comme les EHPAD ou les institutions qui accueillent des personnes en situation de vulnérabilité, de handicap. Quand on voit cette mobilisation extraordinaire des gens qui n'ont pas une pensée philosophique du réel, qui ont un engagement extrêmement fort, qui vivent et qui font battre la démocratie à son niveau le plus élevé, je trouve qu'il y a quelque chose d'indigne de nos dirigeants aujourd'hui à gérer comme ils gèrent. Ça ne m'empêche pas de rendre hommage au président de la République quand il dit on ne laissera personne sur le bord du chemin. C'est-à-dire que être soucieux des personnes en situation de vulnérabilité, on l'a vu dans les positions par rapport aux personnes âgées, par exemple. Mais ça ne suit pas au niveau des modalités pratiques de gestion. Et donc, je dirais qu'une gouvernance, j'allais dire, aussi arbitraire, qui verse quelquefois dans un autoritarisme que personne ne comprend, qui est totalement inadéquat par rapport à la réalité.
Qu'est-ce que vous trouvez d'autoritaire dans la situation dans laquelle...
Il y a des décisions qui sont prises au coupe-coupe. Je ne parlerai pas des législations un peu d'exception. Mais par exemple, par rapport à la vie culturelle, par rapport à la vie sociale, on voit quel point sur le terrain, un certain nombre de décisions sont contradictoires avec ce que les gens mettent en œuvre et démobilisent ceux qui auraient envie de s'investir. Il y a une société, faire société dans une situation de crise, c'est pouvoir dialoguer, parler, se retrouver, vivre la démocratie. Et on donne le sentiment que tout est fait pour s'acharner à détruire ce qui nous donne envie de vivre ensemble. Et de temps en temps, on nous bloque avec une illégitimité totale, des espèces de leçons de morale qui aboutissent au déséquilibre qu'on voit aujourd'hui.
Michael Fossel, dans l'article que vous avez confié donc à la revue Esprit pour ce numéro sur le mythe de l'impuissance démocratique, vous rejoignez en grande partie ce que disait à l'instant Monique Chemillier-Gendreau, en particulier sur la question de cette démocratie qui est à quelque chose d'interminable, dites-vous, mais seulement au sens de la où la dynamique est inachevable, car toujours relancée par la revendication de nouveaux droits, c'est-à-dire effectivement on pourrait trouver que c'est lent. Mais néanmoins, c'est le travail de la démocratie que d'être lente et de devoir justement conquérir de nouveaux droits une fois que les précédents droits ont été acquis.
Oui, c'est une forme de lenteur, certainement, mais c'est une forme de lenteur qui permet aussi l'adhésion des populations, considérées comme des citoyens et pas seulement comme des patients, je dirais, l'adhésion des populations aux mesures qui sont prises et qui peut-être éviteraient d'avoir des réactions extrêmement fortes relativement à ces mêmes mesures. Je dirais, il y a deux moyens d'aborder la démocratie, finalement, d'une part comme état de droit et d'autre part, effectivement, dans l'horizontalité de la société, comme forme de société. Et ces deux aspects ont été mis à l'épreuve, voire en partie d'ailleurs niés à l'occasion de cette crise, parce que pour ce qui est de l'état de droit, on l'a évoqué d'ailleurs, la question des états d'urgence. D'autre part, la figure du Parlement semble totalement absente des décisions qui sont prises, puisque c'est toujours du pouvoir exécutif que viennent ces mesures, président, premier ministre ou préfet. Et puis, du point de vue de l'horizontalité, disons, de la délibération constante ou même du conflit, effectivement, on a aussi une sorte de remise en cause de cette idée selon laquelle, après tout, il s'agit de nos corps, il s'agit du corps des citoyens, dans la manière dont il peut se mouvoir. Donc on est arrivé aussi à ce point. Je ne remets pas moi en cause la question du confinement comme tel, mais simplement la brutalité de la décision qui a été prise et le fait que finalement il n'y ait jamais de retour, je dirais, sur d'audit en quelque sorte de ces mesures.
Retour d'expérience.
Voilà, retour d'expérience. Prenons même la mesure du masque en pleine rue, bon, qui peut quand même poser parfois des difficultés, je dirais. C'est pas une question là de liberticide, c'est plutôt une question de rajouter une sorte de tristesse permanente à tout le monde dans une période qui ne manque pas de tristesse. Bon, eh bien cette mesure a été prise. crise. Les résultats ne semblent pas être absolument convaincants et néanmoins, personne ne revient sur les mesures restrictives ou répressives.
Je vous propose d'écouter Jean-François Delfraissy, le président du Conseil scientifique. C'était sur RMC et BFN Télé vendredi dernier.
Je suis optimiste à partir du moment où on donne aux Français une vision de long terme. Ils sont parfaitement capables de le comprendre. Et qu'ils n'aient pas l'impression qu'on est en train de jouer uniquement tous les 15 jours en prenant tel ou tel type de décision. Non, c'est une vision de long, de moyen long terme. Alors qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire que, on va surveiller, on a tous les indices de surveillance, on a un ministre de la Santé qui est extrêmement actif et que je salue pour les mesures qu'il est en train de prendre en ce moment.
Les mesures de restriction aussi.
Elles sont indispensables.
Mais je vois le maire de Lyon qui dit mais accroître la contrainte n'est pas la bonne solution.
Non, il a raison dans une certaine mesure. Ce qu'il faut, c'est regagner la confiance. C'est regagner la confiance. Mais les mesures de restriction, elles sont nécessaires, quoi que dise le maire de Lyon.
Jean-François Delfraissy sur RMC et BFM Télé. Vendredi dernier, Monique Chemillet-Gendreau, vous pensez, vous par exemple, que cette question du pluralisme passe par l'existence de ce conseil scientifique qu'on a suivi ou dont les dirigeants disent qu'ils l'ont suivi quasiment tout le temps, même si ça n'est pas toujours le cas, comme étant une instance justement pluraliste qui permet que toutes les opinions s'expriment, etc., etc., sur l'avenir de la manière de combattre ce virus?
Oui, toute institution, surtout constituée dans l'urgence et sur une situation aussi grave que la pandémie, est évidemment sujette à critique. Le conseil scientifique, on peut gloser indéfiniment sur ce qu'on aurait pu faire de mieux. Moi, je voudrais revenir sur la question de la démocratie et du temps. Ce qui était frappant quand même dans cette crise depuis le début, mais ça avait été déjà le cas au moment de la crise des Gilets jaunes, c'est la manière qu'a le pouvoir de répondre par des petites mesures immédiates et partielles, donc sur un temps très court, en pensant avec ça résoudre des crises qui sont des crises de long terme. Il est quand même incroyable de voir qu'on continue de fermer des lits. J'ai eu des exemples récents d'un petit hôpital que je connais dans Paris, l'hôpital Vaugirard, dont on vient de m'apprendre qu'il a fermé. Il y avait, je crois, 300 lits environ. On continue de fermer des lits alors qu'on voit bien que le problème est justement la question de lits en état d'activité. Et on a saupoudré un peu de... on a fait quelques petits cadeaux au personnel soignant, mais il n'y a pas eu du tout la revalorisation profonde des personnels soignants qui ferait que les carrières soient attractives et qu'on aurait enfin les équipes soignantes nécessaires auprès des lits. Ça ne sert à rien d'ouvrir des lits si on n'a pas les personnels soignants. Donc là, c'est tout à fait étonnant de voir, mais ça fait partie, je dois dire, de notre civilisation moderne, du capitalisme d'aujourd'hui, tout est à court terme. Et donc le gouvernement, il agit à court terme. Et les problèmes de fond demeurent, on les retrouve un peu plus loin.
La question des hôpitaux, nous en parlerons. D'ailleurs, demain, dans cette même émission, à cette même heure, Emmanuel Hirsch, si on réfléchit à cette question de la démocratie, vous nous disiez tout à l'heure, effectivement, c'est une question d'écouter les citoyens, de les faire participer à la décision. On peut vous demander... comment faire d'une certaine façon?
Je peux vous répondre, mais j'aimerais juste prolonger ce qu'a dit Michael Fossel sur le confinement. On a vu les conséquences du confinement. Et aujourd'hui, ce qui est dramatique, c'est qu'on dit on ne pourra plus confiner. On va confiner d'une manière spécifique, telle et telle catégorie de personnes ou tel territoire. Mais en matière d'éthique, on regarde la finalité. Effectivement, dans l'urgence, il fallait décider, puisqu'on n'avait pas la possibilité d'accueillir en réanimation les personnes dont on craignait qu'on ne pourrait pas s'occuper, mais on a pris des décisions, et des décisions dont j'ai l'impression qu'on n'a pas discuté a posteriori des conséquences.
Oui, c'est ce retour d'expérience dont on parlait tout à l'heure.
Et c'est ça pour moi la concertation, c'est la transparence et le débat.
Il y a des missions parlementaires qui sont chargées de faire le bilan.
Il y a la mission sénatoriale, mais quand on aura les conclusions, de toutes les manières, on sera en retard par rapport à des décisions qui se prennent aujourd'hui. 700 000 personnes atteintes de maladies chroniques n'ont pas bénéficié de traitement. L'Institut Gustave aussi dit que 2 à 4% de personnes, et c'est au plan international atteintes de cancer, sont exposées à une surmortalité du fait de ces choix. Je pourrais décliner pendant des heures les constats que les unes et les autres font. Qu'est-ce qu'on a tiré au niveau des principes d'une décision qui aurait pu être concertée avec le public? On nous dit d'une manière assez rapide, c'est les plus âgés qui sont les plus vulnérables. Donc, que va-t-on faire demain? Quelle décision va-t-on prendre? Et pour être très concret, quand on parle de concertation, pour aller sur le terrain dans mes missions, je vois par exemple que certains EHPAD ont développé la vie démocratique après le confinement. Il y a les conseils de la vie sociale, ils sont réunis avec les pensionnaires, les familles, les équipes, pour dire si demain on est confronté à telle situation,
comment
on agira? Quels sont les critères? Quels sont les inconditionnels? Qu'est-ce qu'on est prêt à ne pas sacrifier? Et voilà ce qui est pour moi la mobilisation de terrain. Uniquement, est-ce que les ARS, dans leurs décisions prescriptives, vont être
les
attentifs?
Les agences régionales de santé.
Est-ce qu'ils vont être attentifs à cette dimension? Un point d'espoir, c'est quand la semaine dernière, il y a eu certaines annonces qui ont été faites, il y a eu le directeur de l'ARS Île-de-France qui a parlé de la capacité d'appréciation au cas par cas. C'est-à-dire, elle a dit, j'attends des décideurs, notamment dans les EHPAD, qu'ils apprécient au cas par cas. Mais quelquefois, il n'y a plus capacité d'appréciation. C'est-à-dire, on est avec un cumul d'enjeux, dans une précipitation, dans une réduction du temps, avec des conflits d'expertise de toute nature, qu'on ne sait plus au nom de quels critères prendre la décision. Et c'est pour ça que je disais qu'il fallait du débat, et le débat, on est passé totalement, on l'a saccagé. Un dernier point aussi, parce qu'on l'a évoqué d'un mot, mais l'histoire de la démocratie sanitaire qui est née dans les années SIDA, avec la loi du 4 mars 2002, elle a été totalement spoliée de toute sa dimension.
Démocratie sanitaire, il faut préciser, effectivement, c'est la participation.
On aurait pu associer toutes les associations.
Des patients en particulier.
On a une représentativité, on a une expertise qui a été totalement spoliée.
Vous écoutez le temps du débat. Notre démocratie souffre-t-elle du coronavirus avec Emmanuel Hirsch, que vous venez d'entendre, Michel Fossel et Monique Chemillier-Gendreau.
Le chef de l'État prendra la parole demain soir
à la télévision, qui devrait appeler à la vigilance de chacun face à une deuxième vague forte de Covid-19.
France Culture.
Seul Emmanuel Macron peut responsabiliser les Français, estime un ministre.
Et demain, Emmanuel Macron pourrait annoncer de nouvelles mesures.
Le temps du débat.
Leur faire comprendre que l'heure est grave.
Pourrait être annoncé demain soir par Emmanuel Macron pour tenter d'enrayer la deuxième vague de l'épidémie.
Emmanuel Macron va reprendre la main.
Emmanuel Laurentin.
Ce sont les derniers arbitrages avant l'allocution d'Emmanuel Macron demain soir.
Emmanuel Macron s'adressera aux Français à la télévision.
Michel Fossel, on vient de l'entendre, tous les médias qui attendent, comme nous d'ailleurs, la parole présidentielle. Et vous dites dans ce numéro d'esprit, vous dites, eh bien, il y a la croyance que la volonté d'un seul vient à bout de toutes les résistances.
Oui, c'est toujours cette idée, encore une fois, que l'efficacité temporelle, la rapidité, l'agilité, comme on le dit aujourd'hui beaucoup dans le vocabulaire managérial, est d'autant plus grande qu'elle est en quelque sorte tenue par un seul individu. Mais vous savez, bon, pour citer tout de suite quelqu'un d'un peu dramatique dans l'histoire, peut-être, à savoir Lénine, il disait une situation est révolutionnaire lorsqu'en haut on ne peut plus et qu'en bas on ne veut plus. Alors je ne sais pas si en haut on a vraiment pu, mais on a quand même constaté qu'en bas on a bien voulu. Ça a été rappelé tout à l'heure, effectivement il y a eu dans la capacité de ceux qui pendant le confinement et d'ailleurs après chez les soignants mais aussi les éboueurs, les caissières, de ceux qui faisaient tenir la société, il y a eu une capacité d'auto-organisation, parce que la démocratie ce n'est pas simplement la représentation, c'est aussi cela, mais c'est aussi la capacité de faire entrer la discussion, la délibération, le conflit parfois dans la société elle-même. Eh bien, ce qui a fait que la France, malgré tout, a tenu, c'est précisément l'investissement, la confiance qu'ont fait un certain nombre de citoyens. De ce point de vue-là, il faudrait revenir justement sur ce mythe de l'impuissance démocratique, parce qu'on a beaucoup produit des prosternations ou des génuflexions même devant le modèle chinois. Bon, le modèle chinois de règlement de l'épidémie a supposé qu'elle soit réglée en Chine. Encore faudrait-il savoir quel est le prix humain véritable et pas seulement d'ailleurs le prix du point de vue des libertés, mais on a des descriptions dans ce numéro de la revue Esprit de ce qui se passe effectivement en Chine, qui est au fond l'inscription des mesures contre le Covid dans le temps long de la société elle-même. Mm-hmm. Donc au fond, on peut dire ils sont peut-être sortis de l'épidémie, mais ils ne sont pas sortis de la force ou de la violence même qui a été mise en œuvre par l'État contre l'épidémie. Et il faudrait que nous réfléchissions, nous aussi, à ce qui va rester de toutes ces mesures, de toutes ces décisions, de cette verticalité, au-delà de la pandémie et de la maladie elle-même.
Monique Chemillier-Gendreau, sur ce point, effectivement, sur la manière dont s'inscrivent des pratiques, qui sont des pratiques d'urgence, dans un temps long du droit, par exemple.
Oui, mais alors, le temps long du droit, le gouvernement ne le connaît pas. Le gouvernement ne connaît que les lois d'urgence. Moi, ce que je trouve frappant par rapport à ce qu'a dit Emmanuel Hirsch sur les mobilisations sur le terrain, et ce qui a été dit également par Michel Fossert sur cette imagination de la base qui a été remarquable pendant la crise, on a une sorte de choc, de dialogue de sourds entre toute cette créativité qui vient des profondeurs de la société et qui transforme petit à petit la démocratie, qui l'enrichit, et puis un pouvoir qui est complètement coupé, un Parlement dont la stérilité est incroyable, qui n'est vraiment là que pour servir de caution au gouvernement, la séparation des pouvoirs.
Ça ne va pas faire plaisir aux parlementaires qui s'échinent à essayer de prendre des décisions autour de cette question de la crise.
Mais les résultats ne sont pas au rendez-vous. est quand même une tendance de fond. Alors là, c'est pas seulement l'actuel pouvoir de Monsieur Macron, mais une tendance de fond dans notre République et dans beaucoup d'autres pays, de prendre de plus en plus de lois liberticides. Parce que la démocratie horizontale, c'est la qualité de la vie, c'est ce que nous venons de dire les uns et les autres, chacun avec nos mots. Et puis, ce sont des techniques. Il faut marier les deux, on a besoin de ces techniques. Or, ce qu'on constate, c'est que les gouvernements prennent des techniques qui tournent le dos à la démocratie. Car si vous prenez le nombre de lois, alors ça a commencé sous Chirac, évidemment, ça a été triomphant sous Sarkozy, mais ça a continué sous Hollande et sous Emmanuel Macron. On a quand même eu la loi antiterroriste d'octobre 2017, la loi asile et immigration de septembre 2018, la loi anticasseur d'avril 2019, et maintenant les mesures d'urgence sanitaire, qui sont autant de restrictions à toutes nos libertés fondamentales, celles de la Déclaration des droits de l'homme, de la Déclaration universelle. Et on voit bien qu'à chaque fois, il y a un effet de clapet. Les droits qui ont été, les libertés qui ont été amoindries, ne sont jamais rendues dans l'état d'origine. Il y a toujours une dégradation des libertés à chaque étape. Ça, c'est très grave, quand même, sur ce que ça veut dire de l'état de ce qu'on appelle encore la démocratie aujourd'hui.
Emmanuel Hirsch.
Je trouve que c'est passionnant ce débat, parce que ce qui m'a beaucoup frappé, on nous parlait d'algorithmes, on parlait des GAFAM, et finalement c'est des gens à main nue qui ont résisté, enfin je veux dire dans les premiers temps. C'est-à-dire c'est l'esprit, j'allais dire la débrouillardise, et j'allais dire ce bricolage de terrain qui a permis de trouver des solutions. J'ai discuté avec le directeur médical de crise de la PHP, Bruno Rioux, samedi, qui parlait des trains, des TGV, et qui avait permis de déconfiner en quelque sorte les services qui n'auraient pas pu prendre en charge des personnes qui seraient décédées. Moi, ce qui me frappe aujourd'hui, c'est d'abord l'incapacité des politiques à comprendre ce qui se passe réellement.
Mais quand vous dites la capacité des politiques, c'est dans notre pays ou dans l'ensemble de ce que vous
général,
pouvez...
Mais moi, je parlerai plutôt de l'expérience en France, hein, puisque c'est celle qu'on vit au quotidien, face à la complexité, d'une certaine manière, et face à la nécessité d'agir vite dans l'incertain, avec des évolutions qu'on anticipe mal. J'ai du mal à voir quelles sont les mécaniques, en quelque sorte, du processus décisionnel. On a des épidémiologistes avec le côté relatif de leurs observations et de leurs prospectives. On a à un moment donné, effectivement, la lourde tâche de décider. Comment décider seul alors qu'on sait qu'on luttera avec? Et le avec, c'est la société en général. On ne lutte pas contre un phénomène comme une épidémie qui est un phénomène total en solitaire. On n'est pas uniquement avec des prescriptions. On lutte en mobilisant une société. Et notamment en prenant en compte la société dans ses plus grandes vulnérabilités. Savoir qu'aujourd'hui, 40% des personnes vulnérables en France, les sans-domicile fixe et les autres, sont contaminées par le Covid-19. Savoir qu'au niveau mondial, la Banque mondiale nous a dit que 150 millions de personnes dans le monde étaient surexposées à la vulnérabilité du Covid, nous montre la dimension sociétale des réponses. Et donc, je termine sur un point, le seul point où je donnerais, j'allais dire, un ticket gagné au gouvernement, c'est à Bruno Le Maire. C'est-à-dire, je trouve que l'accompagnement économique, hein, les stratégies qui ont été mises en place pour éviter que la crise soit trop flagrante, ce sont des stratégies qui sont très convaincantes.
Le chômage
la vraie
partiel,
question,
etc.
c'est est-ce que ça va résister au long terme? Et vraiment, la question aujourd'hui, c'est le long terme, avec tout à l'heure des professionnels qu'on a évoqués, qui ne sont pas usés uniquement physiquement, mais qui sont désabusés. Ils seront sur le terrain. Mais ils ne savent plus au nom de quoi, par rapport à quel sens et par quel projet. Je termine pour dire au président de la République, puisque c'est un général, il faut qu'il nous dise quelle est sa stratégie et quel est son projet. On l'attendra demain.
Oui, Michael Fossel, il y a quelque chose de très intéressant dans ce dossier d'esprit. C'est l'article de Roberto Frega qui parle de confiance sociale et de confiance politique. Et il dit, en fait, bien qu'il y a différents types de pays, on pense pays autoritaires et pays démocratiques, et il dit en fait il y a des pays autoritaires, des pays démocratiques à faible confiance et pays démocratiques à forte confiance. Et quand il parle de la confiance, il parle pas simplement de la confiance des citoyens pour leur gouvernement, mais également des élites qui gouvernent les pays vis-à-vis de leurs propres citoyens.
Effectivement, il distingue en particulier les pays du Nord, les pays scandinaves ou même l'Allemagne, je parle de l'Europe ici, qu'il décrit comme des pays plutôt à forte confiance dans les institutions de la part des citoyens, mais aussi des institutions elles-mêmes, ou plutôt des gouvernants à l'égard des citoyens eux-mêmes. Et puis, il les distingue donc des pays à faible confiance, qui sont les pays plutôt du Sud en Europe, qui sont comme par hasard d'ailleurs les pays où Espagne, Italie et puis France, les mesures les plus drastiques ont été prises en termes au moment du confinement et vraisemblablement encore dans l'avenir. Ce qui fait que il faut peut-être pas toujours effectivement incriminer la manière dont les citoyens eux-mêmes seraient en désamour à l'égard de la démocratie, hein, ce qui est un phénomène qui de fait est repérable électoralement et qui précède de loin la crise. Mais il faut s'intéresser aussi à la manière dont le politique, d'une certaine manière, et le sanitaire ici, en tout cas les autorités médicales, s'adressent aux citoyens. Et là, évidemment, on est dans une difficulté qui est propre à l'épidémie, c'est-à-dire qu'on ne s'adresse pas spontanément de la même manière à des citoyens et à des patients, même si tout le travail, Emmanuel Hirsch pourra en parler mieux que moi, de la médecine a été précisément, de l'éthique de la médecine en tous les cas, de rapprocher le colloque intime entre le médecin et le patient d'une forme de démocratisation, puisqu'il s'agit après tout de son corps. Et de ce point de vue-là, j'ai l'impression que dans l'espèce de rencontre très violente entre le discours médical d'un côté, le discours gouvernemental de l'autre, on a beaucoup régressé, même par rapport à ce qu'on appelait la démocratie sanitaire et la démocratie politique. D'une certaine manière, elles ne font qu'un. C'est-à-dire que on a tout de même affaire, dans les deux cas, même si je ne confonds pas les plans, on a affaire à des contraintes qui portent sur la vie courante, sur les corps et potentiellement même sur le droit. Mais effectivement, la question de la confiance, de l'adhésion, je dirais, aux mesures qui sont prises est partie prenante, évidemment, de l'efficacité. C'est pour cela qu'on ne fonde pas une efficacité sur le ressentiment, sur la seule contrainte. Et donc, il ne s'agit pas simplement de dire que le gouvernement a changé beaucoup de discours. Bon, ça, après tout, s'il avouait sa fragilité d'une certaine manière. Le hiatus fondamental, c'est le hiatus entre des institutions extrêmement présidentialistes qui misent sur l'omniscience du chef de l'État et puis d'un certain nombre de gouvernants, et puis la multiplicité des avis, des opinions dans le temps. Je dirais d'une certaine manière, s'il y avait une reconnaissance d'une certaine forme de fragilité, hein, je crois que c'était...
Nous nous sommes trompés,
nous n'avons pas su, nous avons peut-être pas eu les connaissances véritables et nécessaires. Habermas avait dit, le philosophe allemand Habermas avait dit au début de la crise,
oui, c'était formidable.
Nous devons désormais vivre avec le savoir explicite de notre non-savoir.
Oui.
Voilà. Savoir qu'on ne sait pas, ce n'est pas ignorer au sens strict du terme. C'est déjà reconnaître qu'au fond, ce n'est pas parce qu'on est chef de l'État, chef de gouvernement ou ministre que l'on en sait plus long sur l'avenir.
Oui, Monique Chemillet-Gendrault, il y a tout de même des possibilités pour les citoyens, même si les rassemblements ne sont pas autorisés à plus d'un certain nombre de personnes. Il y a des possibilités, des recours d'une certaine façon. La justice administrative peut être là pour contester certaines des décisions. Et tout de même, le droit est aussi au service des citoyens pour pouvoir dire que la démocratie peut s'exercer. Qu'est-ce que vous en pensez de cela ?
Oui, alors vous savez dans quel état est la justice française. D'abord, je profite de cette occasion pour le rappeler, elle est sinistrée, la justice. Elle est en grande difficulté, mais enfin, elle existe encore, c'est vrai. Mais simplement que les lois dont je parlais tout à l'heure, les lois liberticides, ont mis de plus en plus le pouvoir judiciaire de côté, au profit du pouvoir exécutif et bout de la police. Donc les juges ont la place qu'on leur donne et elle est de plus en plus limitée. Mais je voudrais revenir sur ce qui a été dit sur la confiance, ça me paraît capital. Je trouve que dans la crise, ce qui a manqué le plus pour certains de nos gouvernants, le président de la République en tête, c'est l'humilité. Parce qu'il y a toujours ce ton de « je sais tout », voilà, je vous explique, voilà ce que j'ai décidé parce que je sais. Et puis on s'aperçoit...
On a eu un Premier ministre qui disait « il faut avouer que je ne sais pas », c'était Édouard Philippe, avant d'être Premier ministre.
On lui est redevable de ça, mais c'est tout à fait exceptionnel. Et dans l'ensemble, les gens comprendraient très bien, c'est ce qui vient d'être dit, les gens comprendraient très bien qu'on dise « écoutez, voilà, ben moi tous les médecins que j'ai de mon entourage m'expliquent qu'ils sont désarmés par le caractère nouveau de ce virus, son caractère imprévisible, et dont on ne sait pas encore ce qu'il va devenir dans les mois et les années qui viennent. Donc les gens peuvent comprendre ça. Mais c'est le côté « je sais tout et je prends des mesures autoritaires ». Et puis surtout, c'est le côté arbitraire de certaines mesures. On reproche beaucoup aux gens d'avoir mis longtemps à comprendre qu'il fallait mettre des masques, qu'il fallait accepter le confinement ou qu'il fallait ne plus aller au restaurant. Mais il est quand même incroyable d'avoir très vite réouvert la possibilité dans les trains d'être assis côte à côte sans la règle d'une place libre sur deux, parce que on voulait sauver le musée de la SNCF, alors que les trains sont des espaces confinés avec air conditionné, etc. Enfin, c'est vraiment le lieu de la contamination. Donc voilà, des décisions comme celle-là rendent la ligne politique inacceptable pour le public.
On apprend à l'instant même que le gouvernement italien impose pour demain par décret de nouvelles restrictions sur la vie sociale afin de ralentir l'épidémie et en particulier des mesures qui entreront en vigueur qui prévoient l'interdiction des fêtes dans les restaurants, les discothèques et en plein air. Donc il n'y a pas que la France en l'occurrence.
Oui, mais ce qui est intéressant, France Culture, on est la démonstration, on a voulu une France apprenante. On nous a parlé de France apprenante. La France, je le dis au président de la République, elle a appris. Et elle a appris qu'elle est solitaire et qu'elle est vulnérable, effectivement, par rapport à un phénomène qui nous impacte, et pas uniquement par rapport à la pandémie. Parce que ce qui est le plus dramatique et le plus incernable, c'est que la pandémie est révélatrice de dysfonctionnements et de crises sociales, de crises politiques, de crises de valeurs qui dépassent le phénomène de la pandémie. Donc si on n'a pas une approche, je dirais pas holistique, mais un peu plus systémique, on va toutes les façons vers le mur. Ce qui me paraît, et je termine juste sur ce point, le plus difficile aujourd'hui, c'est la défiance. C'est-à-dire on a fabriqué de la défiance. Et de la défiance également par rapport au milieu des intellectuels, par rapport aux scientifiques. Moi, je trouverais, mais on pourra en débattre longtemps, que le conseil que préside Jean-François Delfraissy, y compris dans sa note d'alerte du 22, a plutôt bien fait son travail. Il a fait son travail, il a demandé de la concertation publique, on lui a refusé. Donc, j'en arrive juste à conclure mon propos en disant, ce qui m'inquiète, c'est la défiance, et pas une défiance uniquement en général, c'est vis-à-vis de notre démocratie. Est-ce qu'elle va survivre ou pas à une crise qui est gérée comme elle est gérée?
Rassurez-nous, ou au contraire, inquiétez-nous. Vous pensez que ça va durer longtemps?
Non, mais je suis pas. En tous les cas, je pense qu'on est sur du long terme, parce que c'est pas uniquement la pandémie. On pourra toujours trouver un vaccin, un traitement. On a déjà des traitements, d'ailleurs, qui permettent à des personnes aujourd'hui en réanimation de survivre. Mais il y a quelque chose de silencieux et de quiescent qui m'inquiète, parce que c'est du non-dit. Et avec cette suffisance des paroles politiques, je trouve qu'on est encore plus inquiet.
Oui, dans ce numéro, vous avez interrogé de la revue Esprit, vous interrogez Axel Honneth, qui tente justement lui aussi de réfléchir à cette question-là. Vous pouvez nous dire en deux mots ce qu'il dit dans ce numéro, en particulier sur la question de la liberté horizontale.
Bah justement, c'est quelqu'un qui a une conception, Axel Honneth, plutôt horizontale de la démocratie, c'est-à-dire qu'il la situe dans l'articulation entre les vies individuelles et puis les institutions, et pas simplement du point de vue du fonctionnement institutionnel lui-même. Et il note très justement que il y a une difficulté, il faut dire un mot quand même à la décharge des gouvernements,
oui, parce que là, quand même,
bien sûr, c'est de dire que cette pandémie a une spécificité par rapport à des pandémies, et d'une certaine manière, heureusement, par rapport à des pandémies plus graves, c'est que elle peut laisser provisoirement, on ne sait pas, mais enfin, en tous les cas, les gens indemnes qui sont pourtant touchés, ou elle peut mener, dans des cas beaucoup plus rares, heureusement, à la mort. Autrement dit, on ne peut pas fonder une expérience commune sur cette... Quand la maladie du sida était totalement, je dirais, mortelle à un moment, évidemment, là, il y avait une prise de conscience plus grande pour ceux qui étaient exposés. Là, tout le monde y est exposé, mais tout le monde n'y est pas exposé de la même manière. Par conséquent, ça demande à gérer, du point de vue institutionnel, le discours politique ne pouvant être que général, hein, en principe, ça demande ça pose des difficultés que Honneth rappelle bien, mais qui néanmoins, puisqu'on est obligé de faire avec quelque chose qui ne produit pas de l'unité immédiate du point de vue des expériences, on peut se fonder aussi sur le caractère dialogique, pardon de ce terme, entre les individus. C'est-à-dire, bon, puisqu'on sait bien qu'il y a des personnes qui sont beaucoup plus exposées en raison de leur âge ou de d'autres pathologies, on peut compter peut-être aussi sur la capacité des citoyens, en l'occurrence membres des mêmes familles ou des amis, de négocier leur rapport à la maladie, plutôt que d'imposer toujours sous l'hypothèse du pire, au fond, c'est-à-dire de la létalité du virus, des mesures de plus en plus contraignantes.
Et puis, on voit dans cet article, dans cet entretien, qu'il s'attaque aussi à certains intellectuels foucaldiens, dit-il, pour qui l'essor du biopouvoir d'un État démocratique limite sans cesse notre liberté. Donc, c'est un discours extrêmement intéressant, effectivement, à l'intérieur d'une
certaine... On a beaucoup abusé du biopouvoir comme paradigme, hérité de Foucault comme paradigme, disons, de la dictature sanitaire. Bon, évidemment, le biopouvoir n'est pas forcément spontanément lié à la démocratie, mais enfin, on ne peut pas non plus faire du soin une question absolument secondaire au profit d'une espèce de romantisme de la liberté et de l'indépendance.
Merci beaucoup à tous les trois. Merci à vous, Monique Chemillet-Gendron. Je rappelle que votre dernier texte est publié chez Textuel et qui s'intitule « Pour un conseil mondial de la résistance ». Quant à vous, Michael Fossel, vous avez donc dirigé le mythe de l'impuissance démocratique, dernier numéro de la revue Esprit, et Emmanuel Hirsch, vous avez dirigé un énorme volume, donc au CERF, pandémie 2020, éthique, société et politique. Merci à tous les trois. C'était le temps du débat. Chloé Cambrelin, Rémi Baille, Fanny Richer, Hugo Boursier et Imane Gilles. Élise Le était avec nous à la technique et Alexandre Manzanares à la réalisation. Une émission à écouter ou télécharger sur franceculture.fr, mais également sur l'application Radio France. Pour le reste, eh bien, sachez que demain, le temps du débat sera consacré, et j'en parlais tout à l'heure, à l'hôpital. L'hôpital est-il armé pour la deuxième vague? Et nous aurons avec nous des soignants et des soignantes qui discuteront justement de l'état de cet hôpital pour cette deuxième vague. Dans 3 minutes, vous retrouverez Arnaud Laporte pour Affaires culturelles. Ce soir avec la comédienne Florence Vialin. Vous écoutez France Culture, il est 19h. Les titres de l'actualité sont présentés par Marie-Hélène Duvigneau. Bonsoir Marie-Hélène.
Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous.